Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle saison de Parolienne Rhapsody. Aujourd'hui, on commence la saison en beauté par l'un des films que j'ai, bien évidemment, toujours rêvé de chroniquer dans cette émission, tant il est probablement une des parodies les plus cultes ever, à savoir Monty Python Sacré Graal. En effet, quel plaisir de parler de ce film. Mais bien plus qu'une chronique sur Sacré Graal, pour la première partie de saison, je vous propose un cycle entier sur le travail des Monty Python, qui incarne encore aujourd'hui la parodie et plus généralement l'humour acidifiant typique des Rosbif. L'idée va être de comprendre, au fil de notre cycle, pourquoi et comment les Monty Python ont su élever la parodie et la comédie dans les hautes sphères. En d'autres termes, pourquoi les Monty Python ont un tel crédit alors qu'ils ne font que de l'humour. Commençons donc par Sacré Graal, qui fait partie de ce cercle très fermé des parodies au cinéma à qui on a pu dérouler le tapis rouge, nommé au prix Hugo, projeté au Festival de Cannes, dans la liste des meilleurs films de tous les temps du magazine Empire, du site IMDB et d'Alexandre Astier. Pourquoi ce film est si spécial? Pourquoi représente-t-il pour beaucoup une finesse dans l'humour et dans la parodie sans précédent? Pourquoi a-t-il tant marqué spectateur comme créateur? Rappelons d'abord des infos essentielles sur Sacré Graal. Ce film est sorti en 1975 et c'est le premier long-métrage original des Monty Python. C'est aussi la première réalisation de Gilliam et Jones. Les Monty Python sont cependant de grands habitués de l'écriture, car ils ont déjà été à l'origine de nombreux sketchs précédemment à ce film, ainsi sélectionnés et rassemblés dans La première folie des Monty Python. Le groupe est donc déjà très connu à l'époque. Ce film a été financé à hauteur de 229 575 pounds à l'aide de la participation de certains groupes de rock de l'époque comme Pink Floyd ou Led Zeppelin. Une métaphore va m'être utile pour comprendre ce qui, selon moi, fait l'essence de Sacré Graal, à savoir celle d'enfants jouant avec leurs jouets. Je trouve qu'il y a un côté fondamentalement enfantin dans la manière dont se présente la parodie avec Sacré Graal. Fondamentalement, car c'est avant tout enfantin dans l'état d'esprit. En ce qui concerne la création en tant que telle, Sacré Graal est une parodie très versatile et qui utilise de nombreuses techniques à la fois dans ce grand complexe qu'est la parodie, et plus encore ce gigantesque complexe que représente l'humour. On a de la parodie, du pastiche, de l'hommage plus ou moins détourné, de la moquerie, de l'allusion, de la référence, etc. Cette avalanche d'effets comiques, plus ou moins présents au premier plan, fait de Sacré Graal une œuvre très complexe sur le plan humoristique. Il semble cependant important de rappeler, dans un premier temps, sur quoi va se fonder cette complexité parodique et humoristique dans Sacré Graal. En d'autres termes, quels sont les jouets que vont utiliser les Monty Python pour ensuite créer ces situations. Le premier jouet, qui est la base de la parodie de Sacré Graal, c'est évidemment les légendes arthuriennes. Mais plus généralement, la base de l'univers sur lequel s'appuie la moquerie et la parodie de Sacré Graal, c'est l'image que ces légendes nous renvoient de la vie médiévale en général. Et cette image-là, elle est très finement analysée par les Monty Python. C'est en effet le premier point que j'aimerais développer, à savoir la qualité de l'analyse du matériel d'origine dont fait preuve le groupe d'humoristes. La question de la légende, par exemple, est très poussée et permet par la suite de créer des décalages humoristiques très fins par rapport à la notion de légende. En effet, dans les légendes du roi Arthur, les personnages ne sont en réalité que des fonctions ou des matérialisations d'un trait particulier. Le courage, la sagesse, la chasteté, etc. Par conséquent, les personnages sont unidimensionnels et n'existent qu'à travers la dimension de leur personnage, qui est ici, dans le cadre des chevaliers de la table ronde, toujours améliorative, portée sur les qualités des chevaliers. Cela est dû avant tout à la portée religieuse des légendes de la table ronde. Les chevaliers qui cherchent le Graal doivent en être dignes. En d'autres termes, par essence, les légendes de la table ronde ont une construction dogmatique, car ce sont plus ou moins des textes religieux. C'est ainsi qu'à partir de là, les Monty Python jouent avec les attentes des spectateurs sur ce qui devrait être une légende, sur ce que devrait être un récit plus ou moins religieux, et plus généralement ce que devrait être une histoire. La structure du film s'inspire à merveille de la structure de la légende, ce qui est ici la dimension pastiche des Monty Python, Le roi Arthur et ses chevaliers doivent accomplir une tâche et sur leur chemin ils rencontrent des épreuves censées prouver leur valeur, c'est-à-dire leur mérite du Graal. Or ici, si la dimension épreuve de ces péripéties est gardée, un pont à traverser, une porte à ouvrir, des gens à convaincre, des énigmes, tout le reste est désacralisé. Les chevaliers sont médiocres, de même que leurs épreuves. Cette désacralisation est toujours à deux niveaux et permet ainsi une plus grande déconstruction et donc un plus grand effet comique. L'épreuve du château d'Anthrax ne se contente pas de montrer la faiblesse de la chasteté de Galahad, mais montre aussi la faiblesse des nonnes et désacralise l'hospitalité religieuse qui fait aussi partie des récits de la table ronde. Les attentes sont doublement détournées et donc l'absurde est total. La désacralisation va également jusqu'à celle de Dieu en personne qui invite de lui-même à remettre en question notre pratique religieuse et ses dogmes. Ainsi, je ne peux m'empêcher, sur ce point, de comparer Sacré Graal à une autre œuvre qui s'en est inspirée, à savoir Kaamelott. Kaamelott est en comparaison de Sacré Graal une œuvre bien moins ancrée dans la notion de religion. La religion dans Kaamelott, c'est un truc qui habite parfois certains épisodes, mais qui n'habite pas l'âme de la série. La connaissance profonde qu'ont les Monty Python des légendes arthuriennes, et la lecture classique qu'ils en ont, font que pour leur vision parodique des légendes de la table ronde, ils ont produit une œuvre qui est habitée par leur religion et qui la détourne à chaque instant du film. Et cette présence fondamentale de la religion induit un autre élément important de Sacré Graal, à savoir le détournement de l'imaginaire issu de ces légendes que l'on a du monde médiéval. Chose que Kaamelott ne fait pas, car s'appuyant plus sur un anachronisme entre le monde médiéval habité par un esprit issu de notre monde occidental contemporain. Nous avons tous, grâce aux histoires, et ce dès le plus jeune âge, une certaine idée de la vie du monde médiéval. Cette idée est souvent très plaisante pour les jeunes enfants, car elle nous présente un système totalement différent de notre monde contemporain. L'absence de rapidité dans les moyens de déplacement, de communication, la grande pauvreté avec la grande richesse, les guerres, la sainteté, l'obscurantisme, le rapport aux morts, etc. Or, comme vous le voyez, cette image du monde médiéval vient en partie des légendes et des histoires, et en autre partie de l'histoire, mais celle avec un grand H. Dans ce film, les Monty Python jouent avec ça et feignent de combler nos attentes diverses pour mieux les casser et créer ce décalage. Les costumes, la saleté, le système politique établi, l'architecture des décors, même l'esthétique du film nous invitent à croire à un film médiéval classique, mais qui serait transformé de multiples manières. Essayons maintenant de comprendre par quoi va passer cette déconstruction des clichés médiévaux. Pour cela, je vais ici vous parler de ce que j'appelle la théorie du mélange. Prenons un exemple de scène qui s'appuie sur la connaissance de nos attentes quand on parle de film médiéval et comment elle est déconstruite. La scène avec les paysans anarchistes et le roi. Dans cette scène, il y a dans un premier lieu une grande connaissance des codes du monde médiéval. Le roi est respecté et est vénéré par tous les autres, le système politique n'est jamais remis en question car la tradition est la base de la société médiévale. Cette connaissance permet aussi le premier décalage. Les Monty Python connaissent nos attentes vis-à-vis du monde médiéval, mais ce monde n'est pas cohérent. Par exemple, comment expliquer l'uniformité d'un système politique dans un monde où les moyens de communication et de transport sont très limités et favorisent l'autarcie. Ce premier décalage s'appuie seulement sur nos propres incohérences entre l'histoire avec un petit h et celle avec un grand h, et crée ce premier niveau d'absurde. Le second décalage se trouve au niveau de leur réponse aux paysans, et qui renvoie là à une incohérence que créent les Monty Python. La réponse des paysans est très érudite, de même que leur niveau de langue très soutenu. C'est un décalage par rapport à l'idée qu'on a de la paysannerie de l'époque. On a donc d'abord un premier décalage qui vient de la différence entre ce qui est présenté dans la légende, à savoir un système politique unifié, et la réalité des choses, à savoir les difficultés d'unifier un territoire sans moyens de communication efficaces. Cette idée est accentuée par le caractère impromptu de la présence de paysans aussi lettrés. Ce décalage est enfin confirmé par les références à des penseurs comme Locke, Montesquieu ou Rousseau dans les propos révolutionnaires des paysans. En d'autres termes, la parodie chez les Monty Python est ici poussée à un niveau d'absurde très fin. On joue sur toutes les possibilités d'absurde à partir d'une idée de base. Mais on remarque donc que les Monty Python n'utilisent pas seulement le matériel de base exploité à fond. Les légendes arthuriennes et la vie médiévale, fantasmées comme historiquement considérées. Beaucoup d'autres apports viennent parsemer l'œuvre de toujours plus d'absurdes. C'est ce que j'appelle la théorie du mélange. On peut notamment penser à l'historien et à toutes les marques d'anachronisme. Selon moi, malgré tout, je pense que la thèse des anachronismes ajoutant de l'absurde est assez faible. Il apparaît plus, selon le regard que j'ai de l'œuvre, que ce mélange d'univers totalement différent renvoie avant tout à une conception très enfantine qui vit dans ce film, comme si des enfants essayaient de recréer la légende à l'aide de briques et de broches. La présence de l'historien, par exemple, renvoie à l'idée selon laquelle les Monty Python seraient en costume en train de jouer dans des lieux qui sont des châteaux, mais que nous sommes bien dans le monde contemporain. On brise totalement l'idée que nous sommes dans un film qui cherche l'immersion dans un univers et un cadre spatio-temporel différent. On fait tout pour nous rappeler que nous sommes dans un film, c'est-à-dire dans un dispositif des plus artificiels. C'est là probablement un des éléments les plus forts de Sacré Graal, ce jeu avec le jeu. En effet, si rien n'est sacré, pourquoi le film en tant que tel devrait être sacré? En bon fou du roi, les Monty Python s'amusent aussi à désacraliser les dogmes du cinéma et de la manière dont doivent se passer et se dérouler les films. Observons d'abord comment c'est possible. Nous avons vu dans l'épisode concernant Hitler et Staput que la déconstruction d'un film en tant que film est souvent un exercice risqué, car la notion d'intérêt essentiel, c'est-à-dire l'énergie qui nous donne l'envie de voir la suite du film, peut être brisée. Comment Sacré Graal réussit à autant déconstruire tout en préservant son édifice? Selon moi, c'est dû à la question de la narration dans Sacré Graal, qui en soit très épurée en tant que moyen. Si on peut analyser la présence très régulière d'une narration extra-diégétique par le biais du livre, des dessins animés, qui parodie toute l'esthétique chrétienne faite dans l'illuminure, si l'on peut l'analyser donc comme un autre élément parodique, car rappelant la narration de Chrétien de Troyes dans Perceval, on note cependant que ce véhicule très simple et très clair fait de poutres apparentes que constitue la narration, permet une clarté et donc limite l'altération de l'énergie du film. Ce film va donc d'un point A, le début du voyage d'Arthur à la recherche des chevaliers, à un point Z qui est le Graal, et c'est dans ces deux bornes inaltérées que l'absurde et la parodie s'installent. On sait donc toujours où le film va et par conséquent on lui tolère plus facilement ses papillonnages. D'autant plus que la légende du roi Arthur est quelque chose de très connu, fait partie de l'imaginaire collectif et par conséquent que cette trame narrative est connue plus ou moins. On n'attend pas d'être surpris. Cette narration élimine aussi un autre potentiel problème, qui est celui du rapport au dramatisme. En effet, et c'est un autre élément qui pour moi me fait penser que Sacré Graal est un jeu d'enfant, c'est que rien n'est vraiment grave. La mort, les obstacles, tout cela sont des règles très souvent bafouées, ce qui détruit le potentiel dramatique du film pour le remplacer par de l'absurde là aussi. Pendant 1h30 et de par ce véhicule narratif et scénaristique très simple et très clair, le film peut alors tout plus ou moins se permettre, puisque l'on continue à regarder malgré tout, car on progresse dans ce chemin de A à Z. Au-delà même de la brisure de ces règles, d'autres règles fondamentales concernant la diégèse sont moquées. On se moque par exemple de la technique de l'élastique, qui est une des techniques qui vise à placer un élément qui apparaît au départ comme anodin et qui se révélera décisif à la fin du film. Sauf qu'en général, cet élément est trop criant d'utilité pour qu'on ne le remarque pas. Or, ici, le bain absurde où nous plongent les Monty Python nous permet une utilisation maligne et moqueuse de la technique de l'élastique. De même que par exemple les heureuses coïncidences et autres facilités scénaristiques qui sont ici justifiées et moquées notamment car on nous rappelle constamment qu'on est dans un film. Ce rappel qu'on est dans un film renvoie à une pratique très courante dans les récits de Chrétien de Troyes qui est l'adresse directe au lecteur de la part de l'auteur. Tu vas parfois dire des choses comme « bon ça c'est pas intéressant, on passe ». Ces adresses directes aux spectateurs, et plus généralement les références au film comme objet filmique, sont légion dans ce film, et désacralisent cette obsession qu'ont les cinéastes pour l'effet de réel que nous procure un film. Pour résumer, quel est l'apport de Sacré Graal dans la parodie? Eh bien, on retrouve ici plein d'éléments qu'on a déjà évoqués dans les épisodes précédents. La clé pour une bonne parodie, c'est la connaissance de ses matériaux d'origine. Ici, Sacré Graal use de multiples palettes d'humour plus ou moins parodiques afin de parler de notre rapport à la légende, de notre rapport au médiéval, bref, de l'imaginaire collectif. En effet, par essence, l'absurde est le contraire de la vérité, et pour pouvoir dire le contraire, il faut déjà connaître la vérité. Sacré Graal a une portée désacralisatrice dans la mesure où la déconstruction des codes à la fois de la légende et du médiéval, de la narration, mais plus généralement du vraisemblable, invite à une réflexion sur les règles que l'on utilise pour raconter des histoires. Le cas le plus évident est bien sûr la place des chansons dans les films musicaux qui est ici questionné. Si dans les films musicaux les chansons ne nous apparaissent pas comme absurdes, c'est car non seulement c'est admis dans ces films-là que l'on chante, mais en plus c'est intégré dans cet effet de réel. Cette constante mise en abîme que nous offre Sacré Graal casse cela et nous fait retrouver la dimension absurde de l'acte de chanter en plein milieu d'un film. Sa cathédrale connaît cependant les limites de la déconstruction. Si un film est totalement déconstruit, alors il ne peut littéralement plus rien porter. En choisissant à la fois un matériel d'origine faisant partie de la culture populaire, à minima britannique, et gardant une certaine forme de trame, même très simple, le film reste alors un véhicule qui a la liberté de tout déconstruire tout en gardant un message. Pour terminer, j'aimerais malgré tout ouvrir quelques perspectives sur ce que je trouve sa cathédrale a manqué, et ce pour diverses raisons. En effet, je vais ici parler de la réalisation du film. Tout d'abord, je vous rappelle que c'est ici la première réalisation de Gilliam & Jones, Gilliam ayant dit plus tard que cette première réalisation était un travail de débutant. Malgré tout, cette première composition reste assez osée pour une première réalisation. Le rapport à la fumée et aux images inspire certaines choses. C'est une évidence. Je trouve en effet la réalisation, malgré tout, très théâtrale, car basée sur beaucoup d'images fixes. Cela participe aussi à cet aspect de jeu autour du jeu que l'on a dans le film. De même, la musique épique, qui casse avec le caractère non épique des chevaliers, et donc nous renvoie à cette absurdité. Malgré tout, cette réalisation pour moi manque d'intention aussi osée que le reste du film, qu'on la considère comme un objet purement filmique. C'est-à-dire que je trouve que le film, par sa réalisation, n'est pas encore assez film. Mais le fait que cette réalisation inspire avant tout quelque chose de très théâtral me pose problème car on est dans un film et non pas dans une pièce de théâtre. Par conséquent, je trouve que c'est pas très osé de faire un film comme une pièce de théâtre et que le caractère filmique n'est pas totalement là encore dans sa cathédrale. Malgré tout, vu que c'est quand même que leur première réalisation, il va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir peut-être, à travers leurs autres films, prendre les rênes complètes de tous les outils que nous offre le cinéma, tout ce dynamisme que nous offre le cinéma, pour peut-être proposer des réalisations plus osées par la suite. Ça peut être intéressant de voir ça.
Voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté en entier. N'hésitez pas d'abord à voir le film, puisque là on a été assez court sur Monty Python sa cathédrale pour diverses raisons, notamment parce que tout simplement la plupart des éléments par la suite dans le film se répètent. C'est surtout un film à vivre en réalité, puisque tout simplement la plupart des éléments que j'ai pas analysés sont tout aussi drôles que les autres. C'est juste qu'ils gardent en leur sein les mêmes idées que ce que j'ai dit là, notamment la question par exemple de l'anticlimax qui peut être retaché à des choses qu'on a déjà dit dans l'épisode. Donc n'hésitez pas à voir le film, ça fera écho à beaucoup de choses qu'on a dit dans cet épisode. J'ai juste pas voulu faire de Reddit. N'hésitez pas également, pour peut-être un truc un peu plus complet sur les légendes arthuriennes, de réécouter notre épisode sur Camelot. Puisque tout simplement c'est là où j'ai pu faire une analyse plus détaillée des légendes arthuriennes. C'est à peu près la même base, même si justement j'en ai profité pour totalement distinguer Monty Python sa cathédrale de Camelot, les deux, Camelot étant inspiré en partie de sa cathédrale bien sûr. Il va être également intéressant, parce que en réalité là on vient de commencer notre cycle sur les Monty Python, de voir ensuite l'évolution, comme je dis en fin d'épisode, avec les prochains longs métrages et même les sketchs des Monty Python, et c'est là où on va pouvoir développer d'autres idées, ce qui est également une des raisons pour lesquelles cet épisode est plus court que d'habitude, c'est que je réserve en tout cas certaines idées dans leur pleine pertinence sur d'autres longs métrages des Monty Python. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas donc à aller écouter également d'autres émissions de Radio Kawa, d'autres Parodiens de Rhapsody, mais aussi d'autres émissions pour vous donner envie, peut-être l'idée. Je vais vous laisser encore une fois avec quelques bonnes annonces de d'autres émissions de Radio Kawa. N'hésitez pas également à aller sur notre Patreon, notamment parce que maintenant il y a un truc où vous pouvez avoir les scripts, par exemple de Parodiens de Rhapsody, c'est-à-dire les textes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça peut être tout à fait intéressant pour peut-être avoir le document papier, voir peut-être les morceaux que j'ai pas gardés au montage. C'est assez rare, hein, je vous rassure. Donc voilà un petit peu pour ce début de nouvelle saison de Parodiens de Rhapsody. Je vous dis à très bientôt, jeudi, le troisième jeudi de tous les mois, donc là le troisième jeudi d'octobre, pour un épisode si ça sera sur La vie de Brian, deuxième film de Monty Python. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bisous.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa ? et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
On pourrait faire une pub pour Getting to Know You, mais là j'ai la flemme.
Bah, ça peut être ça notre pub, non?
Ouais.
Getting to Know You sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.